E-Radio, l'invité de la rédaction de Nantes. Elisa Rulot de l'Académie E-Radio.
Depuis leur création après la crise financière, les crypto-monnaies ne cessent de battre des records. Elles connaissent d'ailleurs un fort regain d'intérêt depuis quelques mois, si bien que certaines entreprises et organisations ont revu leur position sur le sujet. Par exemple, récemment, le réseau Mastercard a annoncé qu'il allait prendre en charge les crypto-monnaies. C'est-à-dire que les clients possédant des cartes Mastercard pourront utiliser leurs crypto-monnaies chez des commerçants qui l'acceptent. Pour rappel, une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, émise sans le besoin d'une banque centrale et qui est utilisable à travers un réseau informatique décentralisé. On a presque tous entendu parler du Bitcoin, pourtant il en existe d'autres et divers projets de monnaie virtuelle sont en cours. Pour faire un tour d'horizon de ces crypto-monnaies, mais aussi de leur intérêt et du danger qu'elles peuvent représenter, nous recevons Alexandre Stachenko. Vous êtes le cofondateur et directeur général de Blockchain Partner. Fondée il y a 5 ans, votre start-up propose des formations et du conseil sur l'usage de la blockchain et des crypto-monnaies. Ces formations sont destinées aux grandes entreprises et aux institutions publiques. Tout d'abord, Alexandre Stachenko, quelles sont les crypto-monnaies les plus connues ou du moins celles qui dominent ?
Le Bitcoin et Ethereum dominent de manière très importante l'écosystème des crypto-monnaies. Le reste, c'est très souvent des projets qui n'ont pas encore fait tout à fait leur preuve. Pour vous donner une idée, sur la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies, qui est de 1000 milliards de dollars, il y a 650 milliards de dollars, c'est Bitcoin. Donc les deux tiers, bam, c'est Bitcoin tout seul. Ensuite, il y a 160 milliards de dollars, c'est Ethereum. Donc là, vous avez déjà, rien qu'avec ça, vous avez 800 milliards, donc vous avez 80% de toutes les crypto-monnaies qui sont représentées juste par les deux premières. Et après, les suivantes, c'est à peine 10 milliards de dollars. Donc on est vraiment sur une domination outrageuse du marché. Alors certes, il y a d'autres crypto-monnaies, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est comme si je disais on utilise de l'euro et du dollar, et vous me disiez oui, mais vous savez, on utilise aussi du dollar zimbabwéen. Certes, il existe le dollar zimbabwéen, mais aujourd'hui, il est carrément moins utilisé dans l'économie mondiale que ne l'est le dollar américain. Donc là, c'est pareil. Bitcoin et Ethereum, c'est quand même une très grosse domination par rapport au reste qui existe, mais qui est pour l'instant très souvent à l'état de projet, ou en tout cas, de, même si c'est des projets qui sont parfois prometteurs, qui restent beaucoup moins solides que les deux premiers.
Il y a aussi d'autres formes de monnaie virtuelle. Je pense notamment à celle des banques centrales ou celle d'État comme le Venezuela. Quel regard vous portez, vous, sur ces crypto-monnaies et quels dangers peuvent-elles comporter ?
Ça, c'est un sujet qui est ambivalent parce que, en gros, les projets de crypto-monnaies à l'heure actuelle des banques centrales, ils sont de plusieurs sortes, mais ils sont rarement satisfaisants. Soit c'est des projets qui sont un peu totalitaires, c'est-à-dire, on va faire une monnaie, mais comme ça, on pourra tracer tous les flux et bloquer les transactions des gens qu'on n'aime pas. Voilà, je caricature un peu, mais globalement, c'est un peu le futur qu'on nous promet, puisque si demain, toutes vos transactions sont connues par un intermédiaire et que vous ne pouvez pas vous en échapper, en fait, ça facilite justement, je pense par exemple à Edward Snowden, qui est quand même vu par la plupart des gens dans la communauté Internet comme quelqu'un qui a révélé des choses assez importantes et qui est... c'est important de tout ce qu'il a dit. Edward Snowden s'est vu couper son accès à ses comptes en banque, parce que justement, c'est des intermédiaires financiers qui contrôlent ce qu'il fait. La seule raison pour laquelle Edward Snowden ou Julian Assange aussi ont pu survivre, c'est parce qu'ils ont accepté les bitcoins. Donc si le futur qu'on nous promet, c'est une crypto-monnaie étatique avec un État qui contrôle justement toutes nos transactions, ça commence à devenir, sentir pas très bon. Parce qu'évidemment, ça veut dire que si vous allez demain à une manifestation politique qui ne plaît pas à tout le monde, potentiellement, on va vous restreindre votre accès à votre compte, etc. Donc ça, c'est pas un futur très intéressant. Ça restreint beaucoup trop la vie privée et le droit qu'on a de faire ce qu'on veut avec notre argent, qui est déjà restreint aujourd'hui, puisque je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une transaction vers une plateforme d'échange en crypto-monnaie, mais il y a une bonne banque sur deux qui vous refusera la transaction.
Est-ce que donc tous les projets de crypto-monnaie de banque centrale ressemblent à ce que vous venez de décrire ?
Après, il y a des projets qui sont des sortes d'hybrides, qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire des projets où les banques centrales ont pour objectif de désintermédier leurs relations avec les banques commerciales. L'idée derrière ça, c'est que, par exemple, quand vous possédez un billet de 10 euros, vous avez de ce qu'on appelle de l'argent banque centrale, parce que c'est de l'argent qui vient directement de la banque centrale, ces billets de 10 euros. Tout autre argent que vous possédez, par exemple dans un compte bancaire, c'est de l'argent de banque commerciale. Et donc, là où ça embête les banques centrales, c'est qu'aujourd'hui, elles n'ont presque plus de lien direct avec le citoyen. Le seul lien direct qu'elles ont, c'est les billets, mais il n'y a presque plus personne qui s'en sert aujourd'hui, en particulier dans les pays développés. Donc, leur projet, ça peut être, quand c'est hybride, eh bien, de retisser un lien direct avec le citoyen en leur proposant d'avoir directement un compte à la banque centrale et donc de pouvoir échanger de la monnaie numérique. Ça, c'est des projets qui peuvent être intéressants. Pour l'instant, la plupart du temps, les banques centrales sont trop frileuses pour se lancer dans ce genre de projet parce que, évidemment, ça va à l'encontre des intérêts des banques commerciales qui, donc, ne font pas spécialement du lobbying en ce sens-là, mais les projets peuvent être intéressants. Après, vous avez des projets qui, à l'inverse, sont, à mon sens, pas inintéressants, mais pour moi, qui relèvent plus de l'optimisation informatique qu'autre chose, c'est les projets, justement, de crypto-monnaies avec beaucoup de guillemets, mais qui, en fait, vont reposer sur un consortium bancaire avec les banques commerciales qui vont agir comme tiers et qui vont permettre de gérer de la monnaie en ligne. Ça, globalement, c'est un sujet c'est un sujet informatique, en fait. J'allais dire, ça ne changera pas la face du monde, ça va juste rendre des choses plus efficaces, efficientes, et encore, on ne sait pas, et donc c'est moins intéressant.
Il y a aussi un autre type de crypto-monnaie qui est assez peu utilisé en Europe, je pense ici au stablecoin. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est l'intérêt?
Les stablecoins, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est très simple, c'est en fait simplement des jetons, souvent sur Ethereum, donc sur la blockchain Ethereum, qui vont permettre de représenter des monnaies déjà existantes. Donc, par exemple, vous avez le US dollar Tether, qui est un stablecoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une entité qui possède plein de dollars dans un compte en banque et qui, pour chaque dollar qu'elle possède, va émettre un Tether. Et donc, ce Tether vaut en permanence un dollar. L'avantage de ça, c'est que comme le dollar n'est pas quelque chose qui peut interagir avec les crypto-monnaies, eh bien, le Tether se substitue à lui, parce que le Tether, lui, est sur une blockchain et donc peut interagir avec les crypto-monnaies. Donc, ça permet d'utiliser toute la puissance des crypto-monnaies, notamment l'automatisation des transactions en particulier, sans s'exposer à des variations de prix importantes ou s'exposer à la volatilité d'actifs à laquelle on n'a pas envie de s'exposer. Donc, il y a beaucoup de stablecoins qui s'appuient sur le dollar qui existe. Donc, il y a le USDT, USDC, USD, enfin bon, bref, il y a plein de USD différents. Et tout ça, ça permet de renforcer encore plus la domination monétaire du dollar d'ailleurs. En Europe, on est très frileux là-dessus, alors que c'est très simple à mettre en place et que ça désinhiberait beaucoup de gens. Voilà, je ne me l'explique pas. C'est très dommage parce qu'on perd encore une opportunité de rester dans la course, tout simplement, puisque nous, en Europe, on est en train de pondre un nouveau régime réglementaire qui prévoit de rendre ça très très difficile d'émettre des stablecoins. Et donc, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues.
En parlant de stablecoin, justement, Facebook est à l'origine d'un projet pour lancer une nouvelle crypto-monnaie, le Libra, renommé depuis Diem, et qui s'appuierait sur le stablecoin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de crypto-monnaie privée?
Ça, c'est un autre chemin qui, moi, ne me plaît pas beaucoup, également, puisque ça voudrait dire, évidemment, qu'on met notre puissance monétaire en tant qu'individu dans les mains d'un conseil d'administration qu'on n'a pas élu, qui a des intérêts privés. Donc évidemment, ça peut être très dommageable d'un point de vue de l'individu, mais aussi évidemment d'un point de vue des souverainetés nationales diverses et variées, puisque évidemment, si on utilise tous la monnaie de Facebook, la France n'a plus son mot à dire, l'Italie non plus, l'Allemagne non plus, dans la gestion monétaire des monnaies traditionnelles. Donc c'est des chemins qui ne m'intéressent pas beaucoup, en tout cas je pense qu'ils sont peu désirables. Mais malheureusement, on peut se retrouver à prendre ces chemins parce que c'est ceux qui seront les plus utilisés par les utilisateurs.
Merci beaucoup Alexandre Stachenko pour ces éclairages sur les différentes sortes de crypto-monnaies. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la startup Blockchain Partner, spécialisée dans la formation et le conseil dans l'usage de la blockchain et des crypto-monnaies. Nous reviendrons avec vous demain sur la blockchain, sur la valeur de ces monnaies virtuelles, mais aussi sur leurs potentiels risques.
C'était l'invité de la rédaction, à retrouver sur euradio.fr.